Je vous invite à ouvrir vos bibles dans l'épître aux Colossiens. On va continuer notre méditation. La semaine dernière, nous avions vu quelques caractéristiques des chrétiens de Colosse. Et ce soir, on va voir la vision que les pasteurs avaient pour l'église de Colosse. Et quelque part, on va se demander, est-ce que nous aussi, on est dans cette même vision ? Ça peut être aussi pour chacun, et en l'occurrence pour moi, un point de repère. Me dire, est-ce que, en tant que berger, j'emmène les chrétiens dans une bonne orientation? Est-ce que chaque chrétien peut effectivement se dire, est-ce que je suis dans une église avec un pasteur, avec une responsabilité? Et puis se dire aussi chacun, quelles sont les vraies priorités de ma vie dans ma marche? Quelle est l'orientation? Quelle est la boussole de ma vie? Donc Colossiens, nous allons lire les versets 9 à 11, chapitre 1er, Colossiens. Colossiens, chapitre 1er, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, je rappelle que le « nous aussi », c'est Paul et les différents compagnons qu'on avait déjà vus avant, et en l'occurrence, un monsieur qui s'appelle Epaphras, et Epaphras était lui qui était le responsable de l'assemblée de Colosse. Alors, je reprends. « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. » La phrase est longue, hein ? Ça fait un peu dense. Alors on va décortiquer point par point. Déjà, ce qui est beau de voir, et une chose qu'on avait déjà vue, c'est que c'est des serviteurs qui prient pour l'Église. Ce ne sont pas, comme on dirait, des mercenaires, des gens qui ne sont juste là que pour leur intérêt propre, mais ils portent l'Église dans leur cœur et ils les portent dans la prière. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et nous demandons, alors là on va aborder, quelles sont les formes de prière, quelle est l'aspiration, quel est le désir de ces serviteurs pour la communauté de Colosse. La première prière, la première expression, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Le désir des pasteurs était, Seigneur, permet que les chrétiens connaissent ta volonté. Et ça, c'est un point important. C'était un peu la méditation de dimanche après-midi et on a déjà vu ça. Mais connaître la volonté, et d'ailleurs, rappelez-vous, c'était même le premier sujet qui avait été abordé quand on avait commencé Colosse. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Et on avait dit que la volonté, connaître la volonté de Dieu, mais c'est ce qui est en fait de plus important. L'essentiel, ce n'est pas de faire les choses. L'essentiel, c'est de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Et la prière de Paul, la prière d'Épaphras, c'est se dire, oh Seigneur, permets que chaque chrétien de l'Église connaisse ce que toi tu veux qu'il fasse. Et ça, c'est une prière noble. Connaître et comprendre toujours mieux la volonté de Dieu. Et rappelons-nous, c'est les différents passages. Quand les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, n'était-ce pas le premier thème abordé? Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse. Nous, dans notre manière de prier, on doit rechercher la volonté de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, dis-moi ce que tu veux. Je veux faire ce que tu veux. Éclaire-moi de ce que tu veux. De temps en temps, nous, on fait notre vie et on demande à Dieu de rentrer dans notre planning, de rentrer dans nos projets. De dire, oh Seigneur, on va faire ça. S'il te plaît, bénis. Mais c'est complètement l'inverse que Dieu veut. Il veut qu'on connaisse, qu'on soit rempli de la connaissance de sa volonté. Paul, quand il a été touché, quand il est devant cette voix qu'il ne connaît pas, cette vision, il dit, mais que veux-tu que je fasse? Jean nous relève cette parole que Jésus a pu dire et qui est l'exemple suprême. Jésus pouvait dire « Je sais que tu m'exauces toujours parce que je fais toujours ce qui t'est agréable. » Toujours. C'est là qu'on se sent très différent de Jésus. Mais Jésus savait que sa seule raison d'être sur cette terre était de faire la volonté de Dieu. Tout ce qu'il faisait, il savait que c'était ce que Dieu attendait de lui. Je crois qu'on est tous animés peut-être d'un même sentiment dans notre cœur. Si je suis le seul à le penser, tant mieux. Ça vous évitera peut-être des souffrances et des questions inutiles. Mais de temps en temps, il peut arriver qu'on se dise « Oh Seigneur, mais pourquoi moi je ne peux pas faire comme... Pourquoi je ne suis pas comme elle ? Pourquoi je ne suis pas comme lui ? Et pourquoi moi j'ai pas ces dons-là ? Pourquoi je voudrais faire ça et j'y arrive pas ? » Et de temps en temps, on regarde notre vie et on se dit « Mais j'aimerais tellement plus. J'aimerais tellement que ça se passe autrement. » Et de temps en temps, on regarde notre vie et on voudrait faire d'autres choses. On voudrait faire plus. On voudrait faire différemment. Et on regarde Pierre, Paul, Jacques et on se dit « Mais moi aussi !» En fait, la seule chose qui est importante à nos yeux, c'est savoir est-ce que je fais ce que tu veux que je fasse. Quoi qu'on fasse, imaginez que les gouttes qui tombent du ciel, là, chaque goutte se dit « Oh là, moi j'aimerais être une rivière, j'aimerais être un océan, j'aimerais être un fleuve, j'aimerais abreuver une ville entière, j'aimerais rassasier tous ceux qui en soif, mais regarde, je ne suis qu'une pauvre petite goutte. » Je ne sers à rien. Oh, du coup, non, je reste là où je suis. Et que toutes les gouttes fassent la même chose. Ça va de la catastrophe. Il n'y aura plus d'océan, plus de mer, il n'y aura plus de fleuve, il n'y aura plus de rivière. Et là, il y aura la vraie sécheresse. Et chaque goutte peut se dire complètement insignifiant. Qu'est-ce que je suis ? Je ne suis qu'une goutte. Oh, je n'ai pas de valeur. Mais si. Si chaque goutte prend et accepte d'être une simple goutte qui tombe du ciel pour abreuver, alors c'est la quantité de cette acceptation, de cette volonté dans notre petitesse qui fait que la pluie est généreuse et abondante et nécessaire. Chacun d'entre nous. On peut se comparer à une petite goutte, n'est-ce pas ? Peut-être même que certains peuvent dire « Oh, mais moi je suis vraiment une toute petite goutte !» Peut-être. Mais l'essentiel, c'est d'être la goutte que Dieu veut que l'on soit. Amen. Où qu'on soit. Et c'est vrai que, c'est pour ça que je dis peut-être qu'il n'y a que moi. Oh, j'aimerais tellement être un prédicateur extraordinaire, bouger les foules, être un révélé. Oh, Seigneur, s'il te plaît, je le prie. Mais si le Seigneur me dit, non, tu seras en SNI. J'y amen, Seigneur. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de chercher à être autre chose que ce que Dieu veut que l'on soit. Si Dieu nous demande de creuser un trou, mais il faut qu'on creuse le trou, c'est tout. Parce que Dieu a besoin de ça à ce moment-là. Et que dans notre cœur, on réalise également que notre grand bonheur, on le verra par la suite, le bonheur du chrétien ne réside pas dans ce qu'il fait, mais réside dans le fait qu'il fait ce que Dieu attend de lui. Quoi que ce soit grand ou petit, que ce soit vu ou pas vu, que ce soit physiquement ou spirituellement, l'essentiel c'est de faire ce que Dieu attend de nous. D'où cette nécessité, cette prière que les disciples, que les pasteurs avaient pour ces chrétiens. Que chaque chrétien connaisse la volonté. Parce qu'une fois que l'on sait ce que Dieu attend de nous, il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à faire. Après, il dit comment ? En toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous accorde sagesse et discernement spirituel. La prière là, des pasteurs, c'est « Seigneur, que les chrétiens ils soient animés par ton esprit de sagesse, d'intelligence, qu'ils y voient clair, qu'ils aient du discernement. Pardonnez-moi que ce ne soit pas un peu des chiens fous ou des têtes brûlées, mais qu'ils soient animés là, de ton intelligence, de ton discernement. » C'est en hébreu qu'il est dit en chapitre 5, verset 14, que les hommes faits, les hommes capables, les hommes matures, ce sont ceux qui ont la pratique et qui ont le sens habitué à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est-à-dire un jugement exercé, une habilité, une faculté à cette sagesse. Comment ça peut venir ça ? Comment est-ce qu'on peut développer cette sensibilité ? En lisant la parole de Dieu, en méditant, en réfléchissant, en se posant, en évaluant comme on l'a dit dimanche matin, non pas en ayant un esprit de critique, mais un esprit critique, être capable d'évaluer les choses, de les sonder par rapport à la parole de Dieu. Et comme il est dit, se laisser aussi interpeller par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous parler de plein de manières différentes. C'est vrai que de temps en temps, on est content quand il y a une parole qui est exprimée dans l'assemblée, une parole prophétique, une parole de connaissance. Là, on a l'impression que la parole de la personne, elle nous parle droit dans le cœur. Oh, ça c'est pour moi. On sent, c'est fort ces moments-là. C'est bon aussi quand le Seigneur nous saisit, il nous donne une conviction forte dans le cœur. Et on sait que c'est ça la direction. Merci Seigneur. Mais le Seigneur peut aussi nous parler dans la simplicité d'une prédication. Il peut nous parler dans la simplicité de notre conscience. C'est Dieu qui a mis une conscience en nous. C'est la lumière de notre âme, la conscience. Il y a des choses comme ça qui veulent se déposer. Il faut les accepter, il faut les mûrir. Ce qui est important, c'est qu'il faut laisser le Saint-Esprit mettre des convictions, des assurances sur notre cœur. Vous savez, Paul qui écrit avec Épaphras, prie pour que chaque chrétien soit rempli de cette intelligence et de cette sagesse spirituelle. Je voudrais attirer notre attention et que nous soyons des hommes et des femmes matures, au sens où méfions-nous de ceux qui ont des convictions à notre place, de ceux qui vont nous dire « Oh, tu sais, le Seigneur m'a révélé que toi ». Méfions-nous de ceux qui ils savent à notre place. Non, la prière des serviteurs, là, c'est que chaque chrétien ait cette intelligence spirituelle, ait cette sagesse intelligente, ait cette conviction intime. Alors, alléluia. Si un frère, une sœur vient confirmer ce qu'il y a sur votre cœur, amen. Mais n'attendons pas comme des bébés qui pourraient s'attendre à ce que ce soit papa, maman qui fasse la cuisine, qui mette la table, qui s'occupe de tout. Non, on est de l'autre côté maintenant. Le Seigneur veut qu'on soit des hommes, des femmes matures et qu'on ait une relation mature avec le Seigneur. Je vous attire sur une attention, c'est Actes chapitre 13. Les chrétiens sont rassemblés et il nous est dit textuellement que le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Point final. Ça, c'est la parole prophétique. « Mettez-moi à part Barnabas, Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Mais quelle œuvre ? Dans cette phrase-là, le Saint-Esprit ne dit pas qu'ils sont appelés à partir en mission, pour aller à... Non. Mais par contre, le Saint-Esprit est en train de mettre en lumière ce que probablement quelque chose commençait à naître dans le cœur de Barnabas et de Paul. C'est là qu'on a dû dire, mais qu'est-ce qu'il y a, Paul, Barnabas, qu'est-ce que vous avez à cœur? Ben, effectivement, on avait ça à cœur, on voulait partir en mission. Ben, le Saint-Esprit nous dit à tous de vous laisser partir, alors partez. Vous voyez là, comment Dieu travaille? Il nous donne la sagesse, il nous donne l'intelligence spirituelle. C'est nous en tant que chrétiens. Et la prière de ses disciples, c'est que chaque chrétien ait cette relation, cette intimité, cette intelligence spirituelle. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Je veux connaître ta volonté, Seigneur, et je veux en avoir cette conviction, cette vie intérieure. Je veux que ce soit en mon cœur, en mon âme, en mon esprit, poussé et stimulé par le Saint-Esprit. Pourquoi faire ? Ben, c'est écrit au verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. La marche, les fruits, les bonnes œuvres, tout ça dans un seul verset, on le comprend, la volonté de Dieu nous pousse à l'action. La volonté de Dieu nous poussera toujours à œuvrer concrètement. Oui, le Seigneur veut qu'on prie, mais le Seigneur veut aussi qu'on agisse. Oui, le Seigneur veut qu'on prenne du temps dans cette solitude de notre chambre, mais le Seigneur veut aussi que l'on sorte de notre chambre et que l'on fasse connaître, que l'on agisse, qu'on soit pratique, organisé. Certains disent « Oh, mais Dieu regarde au cœur !» Oui, bien sûr qu'il regarde au cœur, mais il est aussi le témoin de notre vie. Et si Dieu est réjoui s'il se réjouit, comme il s'est écrit, afin d'être entièrement agréable. C'est-à-dire que Dieu a des sentiments. Oui, Dieu voit au cœur. Mais ça ne veut pas dire s'il est content ou pas content. Oui, Dieu voit au cœur. Mais il veut se réjouir. Non pas seulement d'un bon état de cœur, mais que l'on porte du fruit, que l'on soit dans l'action. À quoi servirait d'avoir des belles paroles s'il n'y avait pas les actions? À quoi servirait un couple à se dire « Oh, je t'aime », mais ne faisait aucune œuvre d'amour? Ce serait même tuer les paroles. Alors, effectivement, n'oublions jamais cette prière que Paul et Epaphras et les autres, « Seigneur, on te prie pour que les chrétiens de Colosse te soient agréables. On te prie pour que les chrétiens de Colosse aient envie de t'être agréables, qu'ils aient dans leur cœur le désir de faire des choses qui réjouissent ton cœur. Alléluia !» C'était ça leur prière. Ils voulaient que chaque chrétien soit animé du désir de faire plaisir à Dieu au travers de leurs actions. La suite du verset dit « Et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. » De quoi il nous est parlé? Mais il nous est parlé de croissance et d'édification. Nous sommes appelés à aller de progrès en progrès. Seigneur, bénis les chrétiens de Colosse. Qu'ils fassent des progrès. Qu'ils grandissent. Qu'ils s'affermissent. Qu'ils soient de plus en plus forts. Que vraiment, on voit que il y a une évolution, une maturité. Comment? Il nous est dit par la connaissance de Dieu. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que les chrétiens de Colosse, la prière de Paul, d'Epaphras, c'était que les chrétiens de Colosse grandissent selon s'ils comprenaient ce qu'ils réalisaient de la personne de leur Dieu révélée au travers de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on a besoin, en tant que chrétien, de connaître vraiment Jésus. Pas seulement qu'il est né, qu'il a vécu là, qu'il a fait ça, mais réaliser sa personne, son amour, sa maturité et le désir que nous devrions avoir. Seigneur, je veux être comme lui. Je voudrais parler comme lui. Je voudrais avoir ses sentiments. Et c'est ça notre modèle. On n'a personne d'autre comme modèle. Personne. Mais chaque chrétien, et la prière de Paul et Paphras, c'était ça, que chaque chrétien puisse grandir avec ce désir d'être comme leur sauveur, comme leur Seigneur. Ils n'ont pas que leur propre force, par la connaissance, par la compréhension de Dieu, mais également par la puissance glorieuse. Et on sait que là, il nous est parlé du Saint-Esprit, que là aussi, on réalise que pour atteindre ce but, ça ne va pas être par nos forces. Hein. On va vraiment avoir besoin que le Seigneur nous renouvelle, nous éclaire. Quelque part même, pour avoir la révélation de Jésus, pour vraiment connaître qui est Jésus, on a besoin que ce soit le Saint-Esprit qui nous le mette dans notre cœur. Même le plus grand des prédicateurs, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va dire des mots, c'est tout. Mais ce qui va éclairer notre cœur, c'est l'action du Saint-Esprit. Et c'était ça la prière de Paul, d'Epaphras, que les chrétiens, ils grandissent pour être comme toi, Seigneur. Aide-les par la puissance du Saint-Esprit à rentrer dans cette œuvre glorieuse. Amen. En sorte que vous serez. Alors, en sorte que vous soyez, c'est en conséquence. Ainsi. Mais c'est quoi la conséquence? En sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la notion de joie, de persévérance et de patience sont les conséquences de tout ça. La conséquence de vivre la volonté de Dieu, la conséquence d'être renouvelé intérieurement dans notre intelligence, c'est une conséquence des œuvres bonnes que l'on va faire pour Dieu, la conséquence de cette croissance spirituelle. En fait, dès qu'on s'investit pour l'œuvre de Dieu, esprit, âme et corps, alors il y a la joie, alors il y a la persévérance, alors il y a la patience. Et de temps en temps, ça fait défaut, non? De temps en temps, spirituellement, on perd de cette joie spirituelle. De temps en temps, on est découragé. De temps en temps, on manque de patience. Et on finit par dire, oh, à quoi bon tout ça? Mais en fait, quand on recherche ces choses-là, c'est là que le Seigneur ranime nos forces, nous stimule et nous donne, comme je l'ai dit presque en introduction, c'est là qu'on connaîtra la vraie joie. quand on cherche la volonté de Dieu et qu'on la met en pratique, c'est là qu'il a la grâce de Dieu dans notre cœur. On peut faire plein de bonnes choses pour Dieu, pour l'Église, pour les autres. Mais tant qu'on ne fait pas ce que Dieu veut, alors on n'est pas très, très serein. En conclusion, on pourrait la relire. C'était ce qu'on avait vu, Epaphras, chapitre 4, verset 12. Rappelez-vous, Epaphras, c'est le pasteur de l'église de Colosse. Et Paul donne ce témoignage d'Epaphras. Donc là, on avait vu que c'était la prière que Paul exprimait dans son écrit en disant, voilà, avec les autres pasteurs, on prie ça pour vous. Mais qu'est-ce que Epaphras avait vraiment à cœur, lui? Eh bien, exactement la même chose. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans la prière, encore la prière, afin que vous teniez bon, encore cette notion de persévérance, de patience, de joie, comme des hommes faits, on parle encore de maturité, de stabilité, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu, et encore cette notion de faire la volonté de Dieu. Ce qui est vrai, je crois, pour l'église de Colosse, doit être vrai pour nous, que nous puissions être une église qui recherche premièrement à faire la volonté de Dieu. Qui croissions dans la maturité, dans la stabilité, dans la stature de Christ, que nous n'ayons pas d'autre objectif que d'être comme Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Et là, on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit, que nous pratiquions les œuvres bonnes. On doit entrer dans les œuvres. Sans les œuvres, la foi est vaine. Et alors, nous connaîtrons cette joie réelle, cette stimulation, cet enthousiasme qui vient du ciel. Amen.